Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde. Alors ici votre animateur Renaud Duval. Nous sommes aujourd'hui le 5 février et c'est un plaisir toujours d'être avec vous en ce lundi hivernal. Eh bien, rentrons tout de suite dans le sujet de quoi on va jaser aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui d'abord, je tiens à dire que ce sera une émission plus courte qu'à l'habitude. Ce sera seulement une heure. Parfois, il y a différentes contraintes qui obligent à ça. Pardonnez-nous. Et pour commencer, on va vous parler un peu brièvement. Aujourd'hui, ça va être vraiment une émission très internationale, extrêmement internationale. D'abord, on va se diriger brièvement vers l'Afrique et pour parler plus précisément du Sénégal. Et pour parler de ça, on a un nouvel invité dans le studio qui n'est jamais venu ici en onde, Guillaume Labarre.
Enchanté.
Donc, Guillaume est un étudiant en politique appliquée également en deuxième année. Et on a notre collaborateur habituel, Félix Soir.
Comme toujours, toujours présent. Ça
alors,
fait plaisir.
Oui, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Dans le fond, je vais vous faire, comme tu l'as si bien mentionné dans la story, je vais faire un petit topo sur ce qui s'est passé avec les agriculteurs en France, puis légèrement en Europe.
Oui, c'est ça, une crise qui a vraiment marqué l'Europe, l'Union européenne au grand complet dans les dernières semaines.
Ouais.
Ça a brassé pas mal, on y reviendra. Et nous avons aussi un autre nouvel invité qui entre en scène aujourd'hui. C'est Rémi Brosseau-Fortier, qui est en première année de politique appliquée également. Donc, tu vas nous parler du conflit Israël-Hamas d'une perspective qui englobe le Moyen-Orient, c'est ça?
Oui, d'abord, merci pour m'accueillir aujourd'hui. Oui, tout à fait, on va parler de la mer Rouge, on va parler des outils, on va parler de la riposte américaine suite à des attaques de drones contre des bases en Jordanie. Donc oui, beaucoup de contenu aujourd'hui.
Oui, beaucoup de tensions en ce moment, c'est ça, dans plusieurs régions, comme tu l'as mentionné, des soldats américains qui ont été tués en Jordanie de la part de... par des frappes de missiles, c'est ça? Tirées par un groupe affilié à l'Iran, c'est ça?
Oui, en fait, des attaques de drones. Donc, drones qui auraient été fournis par l'Iran. On en parlera.
Mm-hmm. Ça va être intéressant. À suivre. Donc, pour rentrer d'entrée de jeu, on va parler, c'est ça, un peu du Sénégal, quelque temps. Parce que le Sénégal, c'est un pays d'Afrique qui est connu pour sa grande stabilité au niveau politique, une des démocraties les plus stables, en fait, en Afrique de l'Ouest. On le rappelle, l'Afrique de l'Ouest a connu, depuis le début de la décennie 2020, plusieurs coups d'État, deux au Mali, deux au Burkina Faso, un au Niger, qui ont vu des changements de régime. La communauté d'État régional qui encadre... et aussi la Guinée, j'ai oublié de mentionner, il y a aussi également un coup d'État en Guinée. La communauté qui s'appelle la CDAO est vraiment en train d'être dans une situation précaire en ce moment. Et le Sénégal est un des membres importants. Voilà que le Sénégal, en fait, qui était censé tenir une élection présidentielle le 25 février 2024, reporte, n'est-ce pas, la date de l'élection. Pourrais-tu, Guillaume, nous faire un retour sur pourquoi est-ce que ce report a lieu, en fait?
Oui. Cette fin de semaine, le président sénégalais,
Parle plus près du micro, excuse.
Parfait, pardon. Macky Sall a aboli le décret fixant la date de l'élection présidentielle devant avoir lieu le 25 février 2024. Décision faisant suite à la demande de certaines parties d'opposition de repousser la date de l'élection afin d'ouvrir un dialogue national face aux élections. En effet, certains candidats ont récemment été rejetés de la liste électorale pour des raisons diverses et variées. Nous comptons par exemple Ousmane Sonko, qui fut radié de la liste électorale en raison d'une condamnation en 2023 pour corruption de la jeunesse, qui est le fait d'avoir favorisé la débauche d'un jeune de moins de 21 ans, ou encore Karim Wall, du Parti démocratique sénégalais, et fils de l'ex-président
Abdoulaye Wade.
Abdoulaye Wade, merci.
Pas de problème.
Qui régnait au Sénégal de 2000 à 2012.
Ouais. Donc, pour revenir, c'est ça un peu là-dessus. Il faut dire que le Sénégal est un des rares partis, un des rares pays démocratiques d'Afrique de l'Ouest où il y a eu une alternance du pouvoir à travers un processus normal électoral, donc à travers les élections. Pour revenir sur Ouad, dont tu disais, en fait, Ouad est le premier à avoir fait une alternance quand il a été élu en 2000. Il a fait deux mandats jusqu'en 2012. Ensuite, on a eu le président actuel, Macky Sall. Et donc, en fait, il y a des rumeurs. En fait, il y a plusieurs interprétations en ce moment, au moment où on se parle, sur pourquoi est-ce que ce candidat-là, le fils de l'ancien président, a été exclu. Également, Ousmane Sonko, qui est très populaire auprès d'une grande partie de l'opinion publique sénégalaise. Et pour ses positions parfois clivantes avec, disons, la classe politique traditionnelle sénégalaise. Et donc, comment est-ce que on pourrait interpréter, disons, ces bannissements de certains candidats?
Eh bien, on pourrait l'interpréter de deux manières différentes. Dans un premier temps, on pourrait l'interpréter comme étant des règles électorales mal adaptées à la réalité du pays. En effet, pour être éligible à l'élection présidentielle, il faut dans un premier temps récupérer un certain nombre de signatures à travers l'ensemble des régions du pays, afin de démontrer que nous avons un support suffisant pour être un candidat présidentiable. Et également passer devant le Conseil constitutionnel, qui est le conseil chargé d'analyser toutes les demandes et de faire les décisions finales. Pardon. Le Conseil a cependant agi contre ces candidats, puisque ça s'est vu, elle... Pardonnez-moi.
C'est correct. C'est un temps sec. C'est propice à ça, on se comprend.
Qui refusait les candidats, dans un premier temps, pour des délits judiciaires. Également, dans le cas de Karim Wade, pour un scandale visant sa nationalité. En effet, il a affirmé lors de sa candidature qu'il n'était uniquement que sénégalais, et qu'il avait renié depuis peu à sa nationalité française, mais des recherches ont démontré que lors de la déposition de la demande de participation électorale, le Wade était encore français, ce qui fit du remous sur la scène politique.
Mm-hmm. C'est un peu comme, si on peut faire un parallèle, Obama, en fait, il y avait Donald Trump, il y a à peu près 10-15 ans de ça, qui remettait en question la validité de sa candidature à la présidence ou de sa présidence, parce qu'apparemment qu'il n'aurait pas été né aux États-Unis, mais finalement, les recherches avaient démontré qu'Obama était bel et bien né aux États-Unis. Maintenant, c'est un peu le contraire, en fait. C'est qu'on a dit, ah non, je suis propre. Puis là, finalement, on se rend compte que... propre, c'est un grand mot, mais je veux dire, c'est ça, parce que là-bas aussi, il faut avoir uniquement la nationalité du Sénégal, c'est ça, pour être candidat. Puis finalement, il n'est pas éligible à cause de ça. Mais ils ont renversé ça. C'est ça?
En fait, la demande... C'est encore un peu nébuleux puisqu'il y a encore beaucoup de discussions et de débats qui sont en jour sur la validité des demandes. Mais par contre, en tout cas, le débat sur la nationalité de Karim Wade fait encore surface aujourd'hui dans ces nouveaux débats présidentiels.
Mm-hmm. Donc c'est ça, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de tensions, il y a eu des manifestations depuis plusieurs mois. Et à la lumière de tout ça, selon une certaine interprétation, ce serait pour ça que le président aurait repoussé à plus tard les élections. Mais là, en fait, il y a plusieurs réactions. D'une part, on craint une sorte de création d'un état d'exception parce qu'en fait, son mandat vient à échéance au mois d'avril. Donc, si on est en trop longtemps, en fait, on ne sera plus dans un cadre constitutionnel légitime. Et d'autre part, en fait, on dit non, en fait, c'est correct parce que ça peut permettre de reconnaître ces candidats-là qui sont soutenus par une partie de l'opinion publique. C'est ça?
Oui, tout à fait.
OK, ben, parfait. Et donc, là, en ce moment, si j'ai bien compris, c'est une situation qui, d'heure en heure, aujourd'hui, évolue, puisque à la fois, il y a des manifestations, mais en même temps, il y a des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale sénégalaise pour voir où on s'en va avec ça, si on permet... Est-ce qu'il y a une date qui est envisagée spécifiquement pour l'instant ou... En fait, c'est vraiment à l'étude, puis on n'a rien statué encore.
Et justement, le sujet des débats qu'il y a au Sénégal en ce moment, puis des manifestations, c'est que le président annonce un report de l'élection présidentielle à date ultérieure. Cependant, la date n'est pas fixée et la durée des discussions n'est pas fixée non plus. Donc, le porte-parole a dit hier à la chaîne française TV5 Monde que le report pourrait autant avoir lieu de une semaine, de un mois ou de 6 mois, ce qui a fait beaucoup réagir. Dans la rue, L'opposition dénonce et appelle à manifester contre cette décision, puisqu'elle juge que le report de l'élection est un signe que le président cherche à étendre illégitimement et constitutionnellement son pouvoir afin de se maintenir en place. Mm-hmm. Mais à l'inverse, le gouvernement, par son porte-parole, affirme que non, le président quittera bel et bien ses fonctions lors de, à l'échéance du... à la fin de son mandat, et affirme, au contraire, que les mesures gouvernementales ne serviront pas à étendre un pouvoir du gouvernement qui, justement, Macky Sall, a affirmé ne pas se représenter aux élections présidentielles puisque c'est son deuxième mandat et ne peut donc plus courir à la présidence, et affirme que c'est uniquement afin de permettre des discussions visant à modifier les règles électorales et ainsi éviter de nouveau cette situation.
Mmh. Faudrait pas qu'il y ait une situation comme ça a été vu parfois dans d'autres pays à un certain degré de démocratique, on pourrait dire en Afrique de l'Ouest, je pense notamment à la Côte d'Ivoire qui en 2020, en fait, le président sortant, Alassane Ouattara, avait dit « je me représente pas », mais par un curieux hasard, son successeur pour son parti, son prétendant à prendre la présidence lors des élections de 2020, était mort subitement. Je pense qu'il y avait dans la soixantaine, en tout cas. Puis à ce moment-là, Alassane Ouattara avait utilisé ce précédent pour, de façon exceptionnelle, se représenter pour un troisième mandat. Sauf que c'était quand même... Il y avait un enjeu de légitimité. Donc, il va vraiment falloir suivre la situation de façon attentive pour éviter que ça dégénère dans ce qu'on pourrait appeler ça un déclin démocratique ou un déclin de légitimité, en tout cas, qui pourrait mener peut-être à une hausse des tensions, voire... il ne faudrait pas qu'il y ait un coup d'État encore dans un autre État africain. Ce serait assez terrible pour la stabilité régionale.
En effet, mais le président tient sa ligne et affirme ne pas se représenter, puis qu'au contraire, que les mesures mises en place ne serviront pas à établir un régime dictatorial, mais à augmenter la crédibilité et la légitimité des élections futures, afin justement d'avoir un système démocratique plus transparent et plus fiable, et pour faire en sorte que le Sénégal demeure le pays le plus stable d'Afrique de l'Ouest.
Mmh. Ça va être important, puis ça va être à suivre au courant des prochaines semaines, prochains mois. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, merci Guillaume pour être venu en parler.
Au plaisir.
Donc, on se revient très bientôt. On s'en va à la pause. De retour en onde, après ce topo que nous avons fait sur le Sénégal, on change de continent, on s'en va en Europe. Oui, ça brasse beaucoup. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de la France, mais écoute, je te lance, vas-y comme tu le sens sur le sujet.
Oh, parfait. Donc, si vous avez suivi l'actualité dernièrement, vous avez sûrement dû voir passer des images sensationnelles dans lesquelles on voit des agriculteurs français un petit peu fâchés en train d'asperger des bâtiments administratifs de fumier, de bloquer des autoroutes avec des divisions de chars d'assaut, des tracteurs, ou encore en train de transformer différents axes routiers en champs. Mais bon, pourquoi? Donc, mercredi le 24 janvier, les deux principaux syndicats agricoles de France, donc la FNSEA, c'est la Fédération nationale du secteur... bon, en tout cas, c'est un syndicat agricole, et le syndicat Jeunes agriculteurs ont transmis une liste qui énumère une centaine de revendications du secteur agricole au nouveau Premier ministre Gabriel Attal, alors que ces derniers manifestaient intensément depuis déjà deux semaines. Les grands axes des demandes étaient notamment l'augmentation des conditions salariales, puisque l'on recense qu'environ 80% des travailleurs agricoles de France vivent sous le seuil de la pauvreté, une baisse du prix du carburant, une augmentation des aides financières, ainsi qu'une demande de réduction des normes environnementales qui empêche littéralement les agriculteurs de travailler. Donc effectivement, les normes sont tellement sévères qu'elles ne laissent aucune marge de manœuvre aux agriculteurs. Il y en a un qui racontait qu'on va même jusqu'à contrôler le calendrier et empêcher les agriculteurs d'effectuer des manipulations banales, mais essentielles en fonction des jours de la semaine. Mmh. Fait que, mettons, le jeudi, t'as pas le droit de travailler avec ton fumier, de répandre ton fumier dans les champs. Enfin, je suis pas un agriculteur, je connais pas trop les manipulations, mais...
Sûrement d'aller mettre des produits plus artificiels, parce que je sais que...
Ouais, mais ça, c'est
des nitrates, des phosphates, des choses comme ça.
Ça, c'est un gros enjeu, mais il y a aussi cet aspect-là, genre de contrôle, contrôle bureaucratique... Mmh. Impertinent, qui fait juste bloquer les trucs. Mais ce n'est pas tout, Puisque les politiques en place et les conditions générales de travail ne permettent pas aux agriculteurs d'être productifs, la France a conclu des traités de libre-échange afin d'importer des produits agricoles de l'étranger, dont les conditions de production ne respectent même pas les normes intérieures françaises. Donc là, il y a une espèce de...
Concurrence déloyale.
Ouais, exact. Concurrence déloyale totale. Un paradoxe un peu bizarre qui fait que les agriculteurs sont déjà comme pauvres, mais là, sont encore plus pauvres parce que ce qu'ils produisent, en s'efforçant de respecter les normes qui sont ultra sévères, ils peuvent même pas le vendre parce qu'ils ont de la concurrence déloyale avec le marché européen.
Ça fait ce qui fait baisser les prix, ouais. Ce qui fait en sorte que l'âme... Puis en plus, il faut compter là-dessus tous les distributeurs qui se donnent une cote, les transformateurs alimentaires, et eux, ce qui leur revient aussi, c'est ça, c'est pas grand-chose.
Puis en plus, déjà...
Mais c'est assez saisissant ce que tu as dit, 81% ouais. Des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté.
Ouais, c'est quand même, c'est assez terrible. Puis en plus, les centres de distribution européens de produits agricoles, de bouffe, ou les grandes industries agroalimentaires, ils sous-payent les agriculteurs qui travaillent pour eux, en guillemets. Fait que ça en ajoute encore à l'enjeu. Mais bon, après avoir entendu les revendications, Attal a annoncé le vendredi 26 janvier une baisse de la taxe du carburant et différentes mesures qui ont été jugées néanmoins insuffisantes pour répondre aux demandes des agriculteurs. La réponse à ces annonces, elle ne s'est pas faite attendre parce que les agriculteurs ont en effet lancé un blocage des grandes villes de l'Hexagone et notamment de sa capitale, Paris. C'est alors qu'on a vu le siège de Paris être proclamé. Donc, des milliers de tracteurs ont paralysé les autoroutes dans plusieurs dizaines de départements français. Ils en ont aussi profité pour étendre du fumier et, pour refaire une beauté aux différentes infrastructures en France. Donc, on parle de routes, bâtiments, postes de police, etc. La mobilisation s'est donc poursuivie. Les manifestations se sont intensifiées jusqu'à jeudi dernier, donc le 1er février, où le premier ministre a fait de nouvelles annonces plus prometteuses qui allaient engager plus de 400 millions d'euros afin d'améliorer la condition des agriculteurs. En voici un court résumé. Donc, premièrement, Attal a promis d'inscrire dans la loi française la souveraineté alimentaire comme un objectif. Donc un objectif à atteindre, dont les indicateurs seront définis avec le secteur agricole pour que ce soit des objectifs réalistes puis qui correspondent à la réalité. Ouais. Ensuite, débloquer 150 millions d'euros en soutien fiscal et social pour les éleveurs de bêtes. Donc ça, il y avait Bruno Le Maire qui avait, par le passé, déjà promis des...
Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.
Oui, le ministre de l'Économie, oui. Qui avait... promis des aides financières pour les éleveurs de bétail, mais les éleveurs l'avaient jugé comme insuffisant parce que c'était trop peu. Mmh. Fait que là, on engage un petit 150 millions. Donc, aussi, resserrer et augmenter le nombre de contrôles dans les supermarchés afin d'éviter la fraude qui est faite avec les aliments faussement étiquetés comme étant français et s'assurer du respect des lois visant à garantir un bon revenu aux agriculteurs embauchés par les grandes industries de l'agroalimentaire. Donc, ça, j'étais pas au courant, mais ça a l'air qu'il y a quand même un gros problème de fraude, justement sur le fait des produits, pardonnez-moi l'anglicisme, made in France, dans les supermarchés. Donc, ça enlève une espèce de. C'est encore de la concurrence déloyale, là, c'est sous une autre forme. Aussi, mettre en pause le plan Ecophyto, qui est un plan qui visait à réduire l'utilisation de pesticides et qui a été fortement contesté par le domaine agricole dès sa mise en place en raison de sa sévérité. Donc, on interdisait des pesticides qui étaient comme la seule solution pour éviter comme tous les problèmes puis assurer une bonne production. Donc, puis les agriculteurs, lorsqu'on écoute les témoignages, on est conscient que c'est pas optimal, mais c'est la meilleure solution qu'on a. Puis on essaye à chaque jour d'essayer de trouver des solutions. Puis on travaille dans cette voie-là, mais en ce moment, c'est le seul truc qui est à notre disposition pour qu'on arrive à produire efficacement.
Oui, puis à rentrer dans leur fin de mois aussi. C'est que tu fais des économies d'échelle, donc tu as avantage à être sur de la grande surface puis à en produire davantage. Puis surtout quand tu es face à une agriculture industrielle qui peut venir de d'autres pays, notamment où les normes sont moins sévères, notamment l'Espagne, notamment l'Ukraine, notamment aussi l'Amérique du Sud. C'est sûr que quand tu as cette concurrence-là... Ta situation est plus difficile.
Puis en plus, je pense qu'il y a une frustration assez importante chez les agriculteurs parce qu'on leur reproche de saccager la nature, d'exploiter genre les ressources naturelles ou les champs, mais alors que eux, comment ils voient ça, c'est qu'ils s'efforcent le plus possible pour respecter les normes, puisque à cause de la concurrence déloyale. Puis eux, ils se voient plus dans une... Ils sont comme en symbiose un peu avec la nature. Mais en tout cas, ils essaient de l'être. C'est eux qui s'occupent du bétail. Ils sont quand même dans des modes de production comme pas tant, très traditionnels, je veux dire, modernisés un peu. C'est sûr qu'il y a l'usage de pesticides, mais c'est pas des grosses industries.
Il y en a quand même. Là.
Oui, il y en a, il y en a.
Mais en fait, c'est le marché alimentaire est aussi... Il y a de la concurrence étrangère où, c'est ça, les normes industrielles sont beaucoup plus faibles, on pense. Mm-hmm. Puis là-dessus, ça m'amène à parler du Mercosur. Je sais pas si tu avais regardé à ce niveau-là. Parce que l'Union européenne, qui est aussi l'ensemble plus large, qui dicte aussi certaines normes, puis qui a un pouvoir sur le commerce en Europe, a un projet d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Donc, on en a parlé, je pense, la semaine dernière un peu. Là. Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, où les normes environnementales sont ridiculement faibles, puis en fait, carrément, parfois, l'exploitation de bétail ou même de grandes cultures contribue activement à la déforestation aussi. Donc, la France s'oppose à cet accord-là. Je crois que c'est nouveau.
Oui, c'est justement en réaction, c'était la semaine dernière, en réaction aux manifestations des agriculteurs, Attal avait promis que la France allait s'opposer à l'Union européenne. Oui, exact. Avec le Mercosur. Donc
ça, c'est gros. Ça, c'est vraiment une avancée significative.
Ça, c'est bon. Donc, le plan Ecofito, il va être...
Je sais pas si Rémi, tu avais quelque chose à ajouter, gêne-toi pas.
Oui, si je me trompe pas en plus, c'est que là, l'Allemagne, en gros, si je me trompe pas, l'Allemagne, elle, était pour cet accord-là avec le Mercosur. Ouais. Et ça va créer d'autres détentions supplémentaires entre... Berlin et Paris, donc au niveau des relations européennes là, qui sont déjà tendues avec la guerre en Ukraine, ça pourrait en rajouter une couche. Mais oui, c'est inquiétant tout ça.
Donc, pour éviter la... Dans le fond, une autre mesure du plan, c'est d'éviter la concurrence déloyale en refusant d'importer des produits qui ne respecteraient pas les normes françaises et en demandant à l'Union européenne de se questionner sur l'importation des céréales ukrainiennes qui déstabilise le marché agricole européen parce que avant ils le faisaient pas, mais là, comme pour soutenir l'Ukraine dans la guerre, ils se sont dit on va importer nos céréales ukrainiennes.
C'est ça en fait. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 2 ans, l'Union européenne a aboli ses tarifs douaniers sur les produits ukrainiens, ce qui fait rentrer énormément de contenu en Europe. Puis c'est intéressant de voir notamment, parce que le mouvement des agriculteurs, là, c'est pas seulement en France, non. C'est notamment en Allemagne. Tu sais, depuis plus d'un an aux Pays-Bas, le Pays-Bas a eu une situation qui a commencé avant. La Pologne aussi.
En Italie, au Portugal.
Ouais, la Roumanie même.
Ouais.
Et ce qui est intéressant avec la Pologne, je tiens juste à le mentionner, c'est que c'est un des pays qui soutient le plus activement la cause ukrainienne pour des raisons géopolitiques, notamment... C'est un des pays qui craint le plus la Russie. Ils sont pas mal proches, on s'entend. Et la Pologne, la population polonaise, commence à se désolidariser partiellement de l'Ukraine en raison de la compétition, notamment agricole, qui est faite par les produits ukrainiens qui rentrent sur le marché. Il y a aussi au niveau des camionneurs que je sais qu'il y a beaucoup de tensions. Donc, ça rend la situation très complexe, cette concurrence étendue.
Donc, finalement, Attal a annoncé le déblocage de 2 milliards d'euros afin d'aider par le billet de prêt les nouveaux agriculteurs à s'installer ou à reprendre une ferme existante. Donc, ça, c'est quand même, je pense que c'est une mesure qui a fait quand même plaisir aux agriculteurs.
Ouais.
Parce que c'est quand même important. Bon, ça reste des prêts, mais c'est vraiment mieux que rien. Puis, tu sais, 2 milliards, ça, je pense que ça va quand même aider. Donc, le même jour, c'est-à-dire c'était le 1er février, la FNSEA. Et jeunes agriculteurs ont appelé publiquement leurs membres à cesser les blocages et à, je paraphrase, transformer le mouvement afin d'aider à l'application des mesures annoncées. Plusieurs manifestants sont rentrés chez eux, alors que d'autres, appartenant généralement à d'autres organisations, continuent la lutte de blocage routier. Une des principales entreprises administrant les autoroutes, je pense que c'est de Vinci, bon, en tout cas, a annoncé que ces dernières ouvriront seulement après quelques travaux une importante opération de nettoyage. Parce que les agriculteurs ont littéralement, je vais pas dire saccagé parce que c'est comme péjoratif, mais en même temps, ils ont altéré les autoroutes et les différentes routes. Donc, ailleurs en Europe, comme on l'a mentionné aussi, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal, Donc bref, dans une bonne partie de l'Europe, les agriculteurs se sont aussi mobilisés dans les dernières semaines et dans les dernières années afin de protester contre les politiques de leur gouvernement et de l'Union européenne en matière d'agriculture. Donc c'est pas partout la même chose, mais ça, les grandes lignes sont pas mal les mêmes. Mm-hmm. Concurrence déloyale, conditions de travail, etc. Mm-hmm. Donc j'ai pas tant regardé dans les autres pays ça ressemblait à quoi plus précisément, mais je sais que ça ressemble à ça. Mm-hmm. Donc,
mais l'agriculture, en fait, en Europe, est en déclin, en fait, mm-hmm. dû à cette concurrence-là. Ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Europe a la capacité d'être une exportatrice nette en termes d'agriculture. Ici, je parle de l'Europe, je parle de l'Union européenne. Elle est capable de tout produire domestiquement, donc la souveraineté alimentaire devrait être possible. Mais les politiques qui ont été mises en place depuis des décennies, à travers des grands processus internationaux de libre-échange, ça a été d'ouvrir la commercialisation puis la concurrence en matière agricole. Puis c'est quelque chose qui peut être jugé très controversé parce que, ça, effectivement, cette mise en concurrence internationale ne s'est pas accompagnée d'une uniformisation des normes. Mm-hmm. Et ça pose énormément de problèmes.
Ouais, c'est comme débalancé. Mm-hmm. Ça se fait ressentir aujourd'hui.
C'est ça.
Donc, je finirai avec une petite ligne éditoriale, comme d'habitude. Donc, si seulement les employés du secteur public au Québec avaient eux aussi des tracteurs, peut-être qu'ils auraient eu le droit à un accord plus alléchant.
C'est un très bon point. On peut aussi parler du fait que l'administration française n'a pas choisi la matraque.
Non. Surprenant.
Ouais. Très surprenant, ouais. Puisque dans plusieurs mouvements sociaux en France qu'on a pu assister dans les dernières années, les derniers mois, surtout le policier en chef, mm-hmm. le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait cette fâcheuse tendance à rapidement amener les CRS, comme on dit là-bas.
C'est, ou la BRAVIM.
La police anti-émeute, et tapait très fort sur du manifestant.
Oui, et même, je pense que j'ai une petite idée pourquoi ça pourrait être le cas au niveau statistique. Il y a le dernier recensement de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, ont sorti une étude qui montrait dans le fond que plus de la moitié des agriculteurs exploitants en France sont âgés de plus de 50 ans. Donc, on parle de 55% d'entre eux. Donc, je pense qu'au niveau électoral, ça ferait peut-être un peu plus mal
De taper sur des vieux.
Oui, ça ferait un peu plus mal de taper sur des vieux que de taper sur des jeunes ou sur des pauvres. Donc, je pense qu'au niveau statistique, il y aurait
surtout
peut-être une piste.
En France, ils votent beaucoup Macron, les vieux. C'est surtout les vieux qui votent pour... Bon, les vieux, bon, comment on va utiliser ça? Ouais. Le troisième âge, l'âge d'or, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ça. Les boomers, ou génération X, pour ceux de, c'est ça, de plus cinquantaine, là, qui votent c'est ça, pour Macron et sa gang. Donc, effectivement, c'est un bon point à amener au niveau stratégique. Puis justement, ben, ça prend de la relève aussi. Donc, il faut donner des conditions qui permettent ça. Autrement, il va y avoir une capture privée puis une centralisation de la possession des terres agricoles. À ce niveau-là, il y a des grands enjeux. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent au sujet au Québec, il y a le film « Le démantèlement » de Sébastien Pilote, un réalisateur saguenéen. Ouais. Un film assez touchant qui a été réalisé qui parle justement de la difficulté d'avoir de la relève en agriculture puis la difficulté d'y arriver aussi. Hein, on se rappelle, l'agriculture, c'est un travail qui demande d'être là pratiquement toujours à la ferme. Et pas des conditions faciles. Et pour parler aussi d'agriculture, ben, j'invite toujours aussi à regarder sur Spotify nos balados. On en a fait un avec un spécialiste, on pourrait dire, dans le domaine. Un étudiant, en tout cas, mais qui est quand même très calé en agriculture. Donc, à aller voir sur le balado de l'attaché de presse. Bon, ben sur ce, ben, merci beaucoup, Félix, cette chronique. C'est un sujet qui, je pense, est essentiel. Et on aura l'occasion de voir aussi des développements plus globalement en Europe, puisque ça s'inscrit quand même dans plusieurs pays, dans des dimensions plus grandes, notamment en Allemagne. Le modèle allemand est en crise en ce moment. La Pologne a plusieurs... Il y a plusieurs questions politiques intéressantes au niveau de la Pologne. Ouais. On pourrait y revenir aussi. Mais pour l'heure... Eh bien, parlons de notre sujet moyen-oriental, le conflit éternel qui ça fait trois quarts de siècle qui dure, mais on ne fera pas l'histoire aujourd'hui, là, ça a été fait maintes et maintes fois. On, On va plutôt parler de, c'est ça, des différentes tensions dans la région du Moyen-Orient, notamment en Mer Rouge avec les Houthis. Les Houthis qui sont un groupe rebelle affilié à l'Iran. Bref, vous avez probablement vu ça partir de l'actualité. Rémi, éclaire-nous donc là-dessus en globalement. Oui. Excusez, ça sonne
bien. Merci Renaud. Écoute, on va y aller avec ça. Tout d'abord, je tiens juste à rappeler que quand même le conflit Israël-Hamas qui a débuté le 7 octobre, ça fait maintenant plus de 120 jours que ça dure, 122 jours pour être exact. Mais un des enjeux qui inquiète beaucoup d'analystes, beaucoup de politiciens, de diplomates haut placés, c'est la question de la régionalisation du conflit. Et comme Renaud l'a mentionné, ben, je vais me concentrer parce que la BBC a sorti récemment un article qui mettait de l'avant environ 8 zones où est-ce qu'il y a des conflits, où est-ce qu'il y a un contexte de polycrise, donc une crise sécuritaire, une crise militaire, une crise économique, humanitaire, etc. Il y en aurait 8 actuellement au Moyen-Orient, mais je vais me concentrer sur deux d'entre elles. Tout d'abord, je vais parler de la Mer Rouge avec les Houthis, et ensuite, on va y aller avec l'attaque de drones sur une base américaine en Jordanie et la riposte de Biden là, qui s'est fait tout récemment avec les conséquences que ça pourrait avoir au Moyen-Orient. Donc, pour commencer, un petit topo sur la situation avec les Houthis. En fait, c'est que depuis l'invasion en octobre, depuis l'attaque par la Hamas sur Israël, en fait, c'est que les Houthis, donc un groupe politico-religieux qui est issu d'une famille rebelle au Yémen, a décidé, pour soutenir la cause palestinienne, pour soutenir le Hamas, d'attaquer des navires marchands affiliés de près ou de loin à Israël, aux États-Unis. Et dans le fond, ça dure depuis plusieurs mois. Et là, à un certain point, les États-Unis ont fait « c'est assez ». C'est assez parce que dans la Mer Rouge, en fait, c'est qu'il y a 12 % du commerce mondial qui transite dans la région. Donc quand même, c'est pour les Américains des intérêts économiques fort précieux. Et c'est que les Houthis, comme ils sont soutenus par l'Iran, ils sont fournis en drones, en missiles pour attaquer les navires. Et les Américains, en réponse, ont déployé une force navale avec un porte-avions ainsi qu'un navire amphibie pour vraiment mettre la pression et contre-attaquer les forces outils là, actuellement.
Donc, en fait, tu as mentionné que ça va contre les intérêts américains, mais ici, les Américains viennent un peu aussi jouer le rôle qu'ils aiment tant faire, c'est-à-dire la police mondiale, puisque, en fait, ça va contre les principes de liberté du commerce maritime sur des eaux internationales. Parce qu'effectivement, tu l'as mentionné, c'est une énorme partie du commerce mondial. On dit 13 %, mais c'est quand même très significatif, qui passe par la Mer Rouge, puisqu'on sait que la Mer Rouge, c'est lié au canal de Suez. Ça évite de contourner l'Afrique au grand complet, notamment pour aller de l'Asie vers l'Europe. Et donc, c'est ça, c'est hautement stratégique comme endroit. Il y a beaucoup de bases militaires dans la région. Je t'amènerai peut-être pas sur la... Ben, non, en fait, c'est ça que je suis en train de faire. Mais je pense que la Chine aussi s'est dit préoccupée par ça. Donc, ça viendrait rejoindre vraiment au-delà des États-Unis, n'est-ce pas?
Ah, clairement, Renaud. Et même, j'ai une statistique qui va dans ce sens-là au niveau du canal de Suez en tant que tel. Il y a eu des rapports qui montraient qu'il y avait eu une diminution de 35 % du volume de fret transporté qui était acheminé dans le canal depuis le début des attaques, donc en octobre-novembre 2023, et là, ça se poursuit en janvier-février 2024. Et donc, ça a entraîné une perte de 40 % des revenus du canal de Suez en dollars américains, ainsi qu'un détour de 7 à 10 jours pour les navires de fret. La perte de revenus serait pour l'Égypte. Donc, personne n'est content avec ça, là, clairement. Mm-hmm.
Puis aussi, c'est ça, ça peut entraîner des délais de production dans plusieurs usines, notamment en Europe. Et on ne veut pas revivre ces problèmes de pénurie ou de fermeture, de mise en arrêt des opérations comme on a pu en voir durant la pandémie. C'est assez curieux que juste 4 ans plus tard, ça revienne, ce problème-là. Ouais.
Oui, c'est un très bon point que tu soulèves au niveau économique. Maintenant qu'on a subi la dimension plus de droit international, de droit économique, je voulais aussi parler du fait que, tu sais, les outils, c'est sûr que ça s'inscrit dans un contexte de la guerre civile au Yémen, qui oppose les Houthis au gouvernement légitime reconnu par la communauté internationale, qui est soutenu par l'Arabie Saoudite, une coalition de l'Arabie Saoudite avec les Émirats Arabes Unis, plusieurs alliés de la région. Et en fait, c'est que plusieurs analystes, clairement, même disent que malgré, dont Thomas Junot, un expert de la région de l'Université d'Ottawa, indique que même si les Houthis sont fortement influencés par l'Iran, ce ne sont pas des marionnettes, dans le fond, que les intérêts régionaux et les intérêts régionaux des Houthis et l'intérêt plus géopolitique, plus déstabilisateur de l'Iran s'alignent, en fait, parce que pour l'Iran, ben, c'est une belle façon d'attaquer indirectement les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais pour les Houthis, c'est une façon de mettre la pression pour pousser Riyad à accélérer les négociations pour mettre fin à la guerre civile qui dure depuis 2015, qui fait des ravages, une crise humanitaire fortement nuisible pour la population.
Pour revenir quasiment 10 ans en arrière, pour donner le contexte, en fait, ça fait depuis ce temps-là que le Yémen est sclérosé entre les Houthis et cette espèce de reliquat du gouvernement qui contrôle pas mal juste le sud du Yémen. À cette heure, les Houthis se contrôlent majoritairement le nord. Et c'est ça, il y a une grande coalition qui fait des frappes aériennes, qui est aussi présente sur le terrain. Donc, c'est ça, donc dans le fond, ce que je comprends, c'est que les Houthis cherchent, à travers l'agression du trafic international, à mettre de la pression, mais alors que ça peut avoir l'effet inverse, puisque justement, là, on commence à ramener les gros guns au niveau des États-Unis face aux Houthis. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut s'attendre à un règlement pacifique ou plutôt à une escalade de violence qui, dans le but d'un peu éradiquer cette menace, entre guillemets, au trafic maritime?
Mais très bonne question. Mais malheureusement, je vais pas être un porteur de bonnes nouvelles là, parce que les Houthis, en effet, comme tu l'as mentionné, Renaud, contrôlent environ 60% contrôlent un territoire au nord-ouest du Yémen où réside à peu près 60% de la population. Dans les faits, un pays dévasté par la guerre ne devrait pas avoir les capacités de production, les capacités militaires de projection pour attaquer et pour faire durer le conflit. Mais l'enjeu, c'est qu'ils sont alimentés en armement, en drones, en missiles par l'Iran, par les gardiens de la Révolution, pour être plus précis. Donc, ça peut durer encore très longtemps et les outils, les attaques ont eu l'effet inverse. C'est ça qui est un peu dommage là-dedans. Plusieurs analystes, dont une chercheuse dont j'ai le nom juste ici, la docteure Amal Saad, qui est une professeure de relations internationales à Cardiff University, soulignait l'inefficacité des attaques, en fait, parce qu'elle disait que ça fait juste augmenter l'effet recherché pour l'Iran. Le but, c'est que les États-Unis s'éparpillent le plus possible parce qu'il faut se souvenir du contexte global derrière ça. Les États-Unis fournissent de l'aide à l'Ukraine, les États-Unis fournissent de l'aide à Israël. Les États-Unis, comme je vais parler un peu plus tard, ripostent en Syrie et en Irak suite à une attaque contre une base militaire en Jordanie. Maintenant, là, les États-Unis ont déployé une petite flottille et un porte-avions dans la mer Rouge. Donc, même si les États-Unis sont la puissance militaire par excellence dans le monde, ça reste que c'est des gros coups là, pour les Américains.
C'est très intéressant ce que tu dis là, je trouve. C'est dans le fond, si on donne un peu de perspective à ça, justement, il y a une fatigue au niveau domestique américain, du fait que l'armée américaine soit investie partout, qu'on mette des gros montants. Il y a le traumatisme de la guerre en Irak, le traumatisme de la guerre en Afghanistan, du fait d'avoir été impliqué là pendant tant de temps puis d'avoir eu plein de gens qui sont morts pour rien. Et maintenant, c'est plus un enjeu effectivement monétaire aussi. L'économie américaine est un peu précaire. On est en allée électorale. Il y a des tentatives de bloquer ça, les fonds à l'Ukraine. Mais en même temps, il y a un intérêt stratégique à soutenir l'Ukraine. Même chose du côté d'Israël. On pourrait même parler de Taïwan rendu là. Donc, ce serait vraiment d'essayer d'épuiser la motivation américaine, c'est ça? Ou de la tester, en tout cas.
Oui, et l'objectif, un peu dans la même veine que Poutine, en fait, c'est vraiment de déstabiliser l'opinion publique américaine parce que, Joe Biden, actuellement, hein, on est au début de la longue période de campagne aux États-Unis. On est dans la pré-campagne primaire maintenant, en fait. Biden, il est dans une position délicate parce que Joe Biden doit riposter pour ne pas perdre la face, mm-hmm. mais il doit le faire sans franchir la ligne, sans déclencher une guerre directe avec l'Iran, parce que l'Iran se maintient dans une position de guerre par procuration, mm-hmm. de guerre asymétrique qui
indirecte.
Donc, pour Joe Biden, il faut être ferme, mais on pourrait dire dans des proportions raisonnables.
Mm-hmm.
Pour ne pas déclencher un conflit qui pourrait embraser la région, notamment avec le sujet qui s'en vient au niveau de ces ripostes en Irak et en Syrie. Et là aussi, on va ramener des enjeux d'il y a une dizaine d'années. Là, vraiment, pour Joe Biden, ça pourrait être une épine dans son pied pour la campagne électorale.
Oui. C'est fou parce qu'avant le 7 octobre 2023, on pouvait se réjouir d'une forme, en tout cas, je sais qu'en 2023, globalement, la perception, c'était qu'il y avait une pacification progressive du Moyen-Orient. Remettons-nous dans le contexte des accords d'Abraham, notamment, où il y avait une normalisation de la relation de plusieurs États arabes avec Israël, puisque parfois, on ne reconnaissait carrément pas l'existence d'Israël ou le droit à exister d'Israël pour de nombreux pays arabes. Je pense ici aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, notamment. Il y avait des pourparlers avec l'Arabie saoudite pour arriver à un accord de ce type. D'un autre côté, tu as mentionné la Syrie. La Syrie a tout récemment réintégré la Ligue arabe qui comporte tous les pays arabes. Et donc, il y a une renormalisation progressive. On pourrait penser que la région se stabilisait. Et là, finalement, on aurait reviré de bord. Et c'est là, en fait, que... Je sais que tu as des fiches là-dessus, c'est ça, sur les négociations Israël-Arabie Saoudite. On sait que l'Iran est l'ennemi régional de l'Arabie Saoudite, mais en même temps, il y avait un certain moment des perspectives de peut-être avoir un dialogue bilatéral entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, piloté par la Chine. Où est-ce que c'en est tout ça? Est-ce que la rivalité reste là? Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, l'Iran voulait éviter à tout prix qu'Israël, son ennemi juré, soit normalisé, notamment avec les Saoudiens, soit s'aligne avec les Saoudiens?
Ben écoute, je pense que tu as un peu volé mon plaisir à énoncer cette belle ou cette triste réalité, devrais-je dire. Donc oui, en fait, exactement, c'est qu'il y avait un cycle de négociations qui prenait fin en septembre 2023 et entre l'Arabie saoudite et Israël. Et Riyad et Jérusalem étaient à très près de normaliser leurs relations diplomatiques, économiques, stratégiques. Et pour Washington, c'était génial parce que, évidemment, là, je ne vais pas vous faire une histoire du conflit israélo-palestinien en deux minutes, mais historiquement, une grande majorité des pays arabes dans la région, notamment l'Arabie saoudite, se sont liés pour fendre l'État d'Israël dans plusieurs conflits dans les années 50, 60, 70. Donc, le fait que l'Arabie saoudite se rapproche d'Israël pour les États-Unis, c'est un gros plus parce qu'on rajoute une stabilité, on rajoute une certitude de sécurité, une certitude aussi de coopération pour peut-être des futurs projets américains. Donc, ça aurait été vraiment génial pour Biden, pour la Maison-Blanche. Mais on pourrait se dire que l'Iran, en voyant ça, à l'époque, il avait fait une déclaration comme quoi l'Arabie saoudite trahissait les Palestiniens. On peut se dire que l'Iran, comme elle finance et soutient fortement la Hamas, probablement que l'Iran a commandé ou fortement encouragé la Hamas à attaquer vers le début octobre pour faire dérailler les négociations. C'est une hypothèse plausible, mais en même temps, plusieurs analystes l'ont mentionné, ce genre d'attaque, ça a pris beaucoup de temps là, à préparer pour la Hamas. Là. Ça n'a pas été une affaire d'un jour, là. Ça a pris plusieurs mois de préparation, même plus d'un an. Donc, ça fait longtemps que l'Iran mijote ce plan de sortie, j'ai l'impression.
Mm-hmm. C'est ça. C'est de longue date, effectivement. Puis l'Iran aussi a une situation domestique difficile. Beaucoup de contestations. On se rappelle des grandes manifestations qui ont eu lieu entourant la mort de Mahsa Amini, qui a été battue à mort par des policiers puisqu'elle ne portait pas de voile, si je me souviens bien. Et en fait, il y a eu une militante féministe qui a aussi obtenu récemment, iranienne, qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Bon, c'est pas la même chose, c'est plus symbolique, mais c'est quand même, ça en dit long sur le fait que l'Iran n'est pas stable non plus. Il y a beaucoup de talons d'Achille en Iran, et donc c'est peut-être avantageux pour eux aussi de détourner l'attention de eux.
Ah oui, mais clairement, c'est le classique. Un peu comme la Chine aussi fait actuellement, qui est aux prises avec des graves difficultés économiques, financières, démographiques. Un peu comme la Chine, l'Iran va se servir de sa politique étrangère avec un discours nationaliste, politico-religieux, messianique un peu, parce qu'il faut se rappeler que l'Iran est chiite, une des deux branches principales de l'islam, mais les chiites sont minoritaires dans le monde au niveau de la population musulmane. Donc, en raison de leur discours révolutionnaire, les Iraniens se positionnent comme des libérateurs un peu du Moyen-Orient, des libérateurs de leurs compatriotes. Donc, pour eux, clairement, c'est une façon, avec les gardiens de la Révolution, là, l'espèce de corps militaire, le bras armé de l'ayatollah, dans le fond, le chef religieux de l'Iran, pour faire sa besogne, là, sans déclarer une guerre ouverte au niveau du droit international, là, casus belli, etc.
Oui, c'est ça. Beaucoup d'opérations parallèles. On a l'occasion d'y revenir, mais d'abord, il faut qu'on aille en pause. Donc, à toutes. De retour en onde, il nous reste un petit 2-3 minutes pour revenir là-dessus. À la lumière de tout ce qu'on a discuté, de grands enjeux géostratégiques, dans les médias, quelle a été la réponse américaine à ces attaques, notamment en Jordanie aussi?
Oh. Oui, dans le fond, c'est qu'il y a eu des attaques le 28 janvier, attaques de drones contre une base militaire en Jordanie qui ont tué 3 militaires américains et blessé plus de 40 d'entre eux. Et les États-Unis ont riposté le 2 février en ciblant 85 enjeux stratégiques, emplacements stratégiques sur des sites en Irak et en Syrie. On parle de stockage de drones et de missiles qui auraient été fournis par l'Iran à des groupes pro-iraniens dans la région. Évidemment, l'Iran a protesté vivement contre la violation de la souveraineté de ces deux pays. Et Bagdad a notamment convoqué la responsable diplomatique américaine pour lui taper sur les doigts. Mais au niveau de la réaction de tout ça, au niveau des enjeux, en fait, c'est que il y a 900 soldats américains stationnés en Syrie et 2500 stationnés en Irak qui sont en fait des legs, si on veut, de la coalition internationale qui avait été créée en 2014 pour se battre contre l'État islamique. Donc, précédemment, quand je parlais qu'on allait revenir 10 ans en arrière, là, littéralement, c'est ce qu'on fait, parce que c'est des vieux enjeux qui resurfacent actuellement et il y a beaucoup de craintes au niveau de la stabilisation de la région. Là. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ça?
Oui, et là-dessus, Guillaume, ça, durant la pause, tu as fait une observation très pertinente sur le fait que ce n'est pas les États-Unis seulement qui s'impliquent, n'est-ce pas? C'est une coalition.
En effet, les Américains s'impliquent plus dans la région depuis peu. Il y a les Anglais et les Canadiens qui apportent un appui. Les Anglais avec des nouveaux pilotes et des avions pour soutenir les bombardements au sol et les Canadiens avec l'envoi de 3 spécialistes du renseignement dont la mission n'a pas été révélée au public, mais qui pourrait, nous le croyons, renseigner les pilotes anglais et américains pour les frappes et de l'emplacement des outils dans la région.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Puisque c'est ça, on se rappellera qu'effectivement, il y a tout l'aspect ouvert au public qui est dit, mais il y a aussi beaucoup d'opérations secrètes qui ont lieu. Je me rappelle d'un moment assez curieux où il y avait une rencontre du secrétaire, du ministre des Affaires étrangères américain, Mike Pompeo, avec son homologue israélien et son homologue saoudien. Et quelques jours plus tard, un des plus grands, un des plus éminents scientifiques iraniens du programme nucléaire militaire
mourait.
Avait été assassiné par des assassins qu'on n'a jamais su c'était qui. Donc, il y a toujours ce terrain-là aussi qui existe. Ça a été, c'est utile de le rappeler. Donc, merci beaucoup pour cette émission aujourd'hui. Je vous dis salut tout le monde. À la semaine prochaine.